Chapitre 4, 12 Square Grimaud.
Qu'est-ce que c'est l'ordre du... commença Harry.
Pas ici, mon garçon, grogna Maugret. Attends d'être entré.
Il reprit le morceau de parchemin et y mit le feu du bout de sa baguette magique. Tandis que le message s'enflammait et voletait en cendres vers le sol, Harry regarda à nouveau les maisons autour de lui. Il se trouvait devant le numéro 11. À gauche, il vit le numéro 10. À droite, le numéro 13.
« Mais où est le... Pense à ce que tu viens de lire !» dit Lupin à voix basse.
Harry obéit, et à peine s'était-il répété les mots « 12 Square Grimaud » qu'une vieille porte délabrée surgit de nulle part entre les numéros 11 et 13. Des murs décrépits aux fenêtres crasseuses apparurent à leur tour. C'était comme si une nouvelle maison avait soudain écarté les deux autres pour se glisser entre elles. Harry la contempla, bouche bée. On entendait toujours les pulsations de la musique au numéro 11. Apparemment, les moldus qui habitaient là ne s'étaient aperçus de rien.
« Viens, dépêche-toi !» gronda Maugret en poussant Harry devant lui.
Harry monta les marches usées du perron, le regard fixé sur la vieille porte qui venait de se matérialiser. Elle était recouverte d'une peinture noire miteuse et éraflée par endroits. La poignée d'argent avait la forme d'un serpent et il n'y avait ni trou de serrure, ni boîte aux lettres. Lupin sortit sa baguette magique et en donna un petit coup sur la porte. Harry entendit une longue succession de bruits métalliques, puis quelque chose qui ressemblait au cliquetis d'une chaîne. Dans un grincement, la porte s'ouvrit.
« Entre vite, Harry !» murmura Lupin. « Mais ne va pas trop loin et ne touche à rien !»
Harry franchit le seuil et se retrouva dans l'obscurité quasi totale du hall. Une odeur douceâtre d'humidité, de poussière et de pourriture imprégnait les lieux. La maison donnait l'impression d'être totalement à l'abandon. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Harry vit les autres entrer à la file derrière lui. Lupin et Tonque portaient la grosse valise et la cage d'Edwige. Debout sur la dernière marche du perron, Maugret libérait une à une les boules de lumière que l'éteignoir avait dérobées au réverbère. Chacune d'elles s'envola vers son ampoule éteinte et le square Grimaud fut à nouveau baigné d'une lueur orangée qui disparut lorsque Maugret referma la porte. L'obscurité du hall devint alors complète.
Et voilà.
Maugret donna un bon coup de baguette magique sur la tête de Harry qui sentit cette fois quelque chose de chaud lui couler dans le dos. Le sortilège de désillusion avait été levé.
« Ne bougez pas, je vais faire un peu de lumière, » murmura Maugret.
Les chuchotements qu'il entendait autour de lui donnaient à Harry un étrange sentiment d'appréhension comme s'il venait d'entrer dans la maison d'un mourant. Il y eut un léger sifflement, puis des lampes à gaz à l'ancienne s'allumèrent peu à peu le long des murs, projetant une lumière tremblante et fantomatique sur le papier à moitié décollé, et les tapis usés jusqu'à la corde d'un long hall sinistre. Un lustre couvert de toiles d'araignée luisait au-dessus de leur tête et des portraits noircis par le temps étaient accrochés de travers. Harry entendit quelque chose bouger précipitamment derrière la plinthe. Le lustre, ainsi qu'un candélabre posé sur une table bancale, avaient tous deux la forme de serpent. On entendit de petits pas pressés et Mrs. Weasley, la mère de Ron, surgit dans l'embrasure d'une porte à l'autre bout du hall. Elle se hâta vers eux, le visage rayonnant, visiblement ravi de les accueillir. Harry remarqua qu'elle était plus mince et plus pâle que la dernière fois où il l'avait vue.
« Oh, Harry, quelle joie de te revoir » murmura-t-elle.
Elle le serra contre elle dans une étreinte à lui faire craquer les côtes, puis recula d'un pas en le tenant par les épaules et l'examina d'un œil critique.
« Tu m'as l'air tout faible. » « Tu as besoin de manger quelque chose, mais j'ai bien peur que le dîner se fasse un peu attendre. »
Elle se tourna vers les autres et murmura rapidement.
« Il vient d'arriver, la réunion a commencé. »
Derrière lui, Harry entendit les sorciers manifester divers signes d'intérêt et d'enthousiasme, puis il les vit défiler en direction de la porte par laquelle Mrs. Weasley était entrée. Harry s'apprêtait à suivre Lupin, mais Mrs. Weasley le retint.
« Non, Harry.
Harry, la réunion est réservée aux membres de l'ordre. Ron et Hermione sont en haut. Tu n'as qu'à attendre avec eux, qu'elle soit terminée. Ensuite, nous pourrons dîner et surtout, parle à voix basse hein, quand tu es dans le hall,
ajouta-t-elle dans un murmure pressant.
Pourquoi ? Et il ne faudrait pas réveiller quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? Je t'expliquerai plus tard. Dépêchons-nous, je dois assister à la réunion. Je vais te montrer ton lit.
Un doigt sur les lèvres, elle s'avança sur la pointe des pieds en lui faisant signe de la suivre. Ils passèrent devant de longs rideaux mangés au mythe, qui devaient masquer une autre porte, puis après avoir contourné un grand porte-parapluie en forme de jambe de troll, ils montèrent un escalier obscur dont le mur s'ornait d'une rangée de têtes réduites fixées à des plaques. En regardant de plus près, Harry vit qu'il s'agissait de têtes d'elfes. Toutes avaient le même nez semblable à un groin.
Harry était un peu plus déconcerté à chaque pas. Que faisait-il donc dans une maison qui semblait appartenir à l'un des pires adeptes de la magie noire ? Mrs. Weasley, pourquoi Ron et Hermione vont tout expliquer, mon chéri ? Il faut vraiment que je me dépêche, murmura-t-elle, l'air affolé. C'est là !
Ils avaient atteint le deuxième palier,
la porte à droite. Je vous appellerai quand ce sera terminé.
Et elle se hâta de redescendre l'escalier. Harry traversa le palier délabré, tourna la poignée de la porte qui avait la forme d'une tête de serpent et entra. Il eut le temps d'apercevoir une chambre sinistre avec de hauts plafonds et des lits jumeaux. Puis il entendit un gazouillis sonore suivi d'un cri perçant et son champ de vision fut complètement obscurci par une masse épaisse de cheveux ébouriffés. Hermione s'était jetée sur lui et le serrait dans une étreinte qui faillit l'aplatir, tandis que Coxigru, le minuscule hibou de Ron, voltait autour d'eux d'un air surexcité.
« Harry ! Ron ! Ça y est ! Il est là ! C'est Harry ! Oh, nous ne t'avions pas entendu arriver ! Oh, comment vas-tu ? Ça va ? Tu étais furieux contre nous. Oh, je peux l'imaginer. Nos lettres n'avaient aucun intérêt. Nous ne pouvions rien te dire. Dumbledore nous avait fait jurer de garder le silence. Mais maintenant, on a tellement de choses à te raconter. Et toi aussi. Les détraqueurs. Quand nous avons entendu ça, et l'histoire de l'audience au ministère, quel scandale. J'ai bien étudié la question. Ils ne peuvent pas te renvoyer. C'est impossible. Il y a une disposition dans le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle qui autorise le recours au sortilège en cas de légitime défense. « Laisse-le respirer, Hermione !» dit Ron avec un grand sourire tandis qu'il refermait la porte derrière Harry.
Il semblait avoir encore pris plusieurs centimètres au cours du mois écoulé et paraissait plus grand et dégingandé que jamais. En revanche, son long nez, ses cheveux carottes et ses taches de rousseur n'avaient pas changé. Toujours rayonnante, Hermione lâcha Harry, mais avant qu'elle ait pu prononcer un mot de plus, il y eut un léger bruissement et une forme blanche s'envola du sommet d'une armoire pour atterrir en douceur sur l'épaule de Harry.
« Edwige !»
La Chouette des Neiges claqua du bec et lui mordilla affectueusement l'oreille tandis que Harry lui caressait les plumes.
« Elle était de très mauvaise humeur, » dit Ron. « Elle a failli nous dévorer à moitié quand elle nous a apporté tes dernières lettres. Regarde ça !»
Il montra à Harry l'index de sa main droite qui présentait une coupure à moitié guérie mais profonde.
« Ah oui, désolé, » dit Harry, « mais je voulais absolument des réponses. »«
On aurait bien voulu te les donner, » répondit Ron. « Hermione, en devenait folle, elle n'arrêtait pas de dire que tu finirais par faire une bêtise si tu restais tout seul sans aucune nouvelle. Mais Dumbledore nous a fait
jurer de garder le silence, » acheva Harry. « Je sais, Hermione me l'a déjà dit. »
L'impression de chaleur qui l'avait envahie à la vue de ses deux meilleurs amis s'était dissipée. Et une sensation glacée se répandait à présent au creux de son estomac. Tout à coup, après avoir éprouvé pendant un mois entier un tel désir de les revoir, il avait plutôt envie que Ron et Hermione le laissent seul. Il y eut un silence tendu, pendant lequel Harry caressa machinalement Edwige sans regarder les deux autres.
Il pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire,
reprit Hermione, la voix un peu haletante.
Dumbledore, je veux dire...
« C'est ça, » répondit Harry.
Il remarqua que les mains d'Hermione portaient également la trace des coups de bec d'Edwige et s'aperçut qu'il n'en éprouvait aucun remords.
« À mon avis, il pensait que tu étais plus en sécurité chez les moldus, » commença Ron.
« Ah ouais ?» dit Harry en haussant les sourcils.
« Est-ce que l'un de vous deux a été attaqué par des détraqueurs au cours de l'été ?»«
Ah bah non, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il te faisait surveiller sans arrêt par des gens de l'Ordre du Phénix. »
Harry ressentit une brusque secousse, comme s'il avait raté une marche en descendant un escalier. Ainsi donc, tout le monde savait qu'il était surveillé, sauf lui.
« Ça n'a pas marché si bien que ça, on dirait, » remarqua Harry en faisant de son mieux pour parler d'une voix égale.
En définitive, j'étais obligé de me débrouiller tout seul.
« Il était dans une fureur !»
dit Hermione d'une voix presque terrorisée.
« Dumbledore, on l'a vu ! Quand il a appris que Mandingus était parti avant la fin de son tour de garde, c'était effrayant !»«
Eh bien, moi, je suis très content qu'il soit parti, » répliqua froidement Harry. « Sinon, je n'aurais pas été obligé de jeter un sortilège, et Dumbledore m'aurait sans doute laissé mijoter à Privet Drive tout l'été. »«
Tu n'es pas inquiet à propos de ta convocation au ministère de la magie ?»
demanda Hermione à voix basse.
« Non, » répondit Harry sur un ton de défi.
Il s'éloigna d'eux en jetant des coups d'œil autour de lui. Edwige, l'air satisfait, blottit sur son épaule. Mais cette pièce n'était pas faite pour lui remonter le moral. Elle était sombre et humide. Une toile vide, dans un cadre ouvragé, constituait le seul élément qui rompait un peu la monotonie des murs au papier peint décollé. Lorsque Harry passa devant, il lui sembla entendre quelqu'un ricaner quelque part dans l'obscurité.
« Alors, pourquoi Dumbledore tenait-il tant à me garder dans l'ignorance ?» demanda Harry, qui s'efforçait toujours d'adopter un ton détaché.
« Est-ce que vous avez pris la peine de le lui demander ?»
Il leva la tête juste à temps pour les voir échanger un regard éloquent. De toute évidence, son comportement était exactement celui qu'ils avaient redouté, ce qui ne fit rien pour améliorer son humeur.
« « Nous avons expliqué à Dumbledore que nous voulions te raconter ce qui te passait, » dit Ron. « Tu peux nous croire, Harry, mais il est très occupé en ce moment. Nous ne l'avons vu que deux fois depuis que nous sommes arrivés ici, et il n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer. Il nous a simplement fait jurer de ne rien te communiquer d'important dans nos lettres. Il avait peur que nos hiboux soient interceptés. »
« Il aurait quand même pu me tenir informé s'il l'avait voulu, » répliqua sèchement Harry. « Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'a aucun moyen de transmettre des messages autrement que par des hiboux. »
Hermione jeta un coup d'œil à Ron avant de répondre.
« Je pensais la même chose, mais en fait, il ne voulait pas que tu saches quoi que ce soit. »«
Il pense peut-être que je ne suis pas digne de confiance ?» dit Harry en observant l'expression de leur visage.
« Ne sois pas idiot !» répondit Ron, qui ne savait plus où il en était.
« Ou que je suis incapable de prendre mes responsabilités ?»«
Ça n'est pas du tout ça !»
s'exclama Hermione d'une voix anxieuse.
« Alors expliquez-moi pourquoi j'ai dû rester chez les Dursley pendant que vous deux vous étiez ici à participer aux événements, » interrogea Harry. Ses paroles sortant en cascade de ses lèvres, sa voix s'intensifiant à chaque mot. « Comment se fait-il que vous ayez le droit de savoir ce qui se passe ?»«
Ce n'est pas ça du tout !»
l'interrompit Ron.
« Maman ne nous laisse jamais approcher des réunions. Elle dit que nous sommes trop jeunes. »
À sa propre surprise, Harry se mit alors à hurler.
« Donc vous n'assistez pas aux réunions, et alors ? Vous êtes quand même ici, non ? Et ensemble ? Moi, j'ai été coincé chez les Dursley pendant tout un mois, et j'ai dû affronter des situations dont vous n'avez jamais eu l'idée. Dumbledore le sait. Qui a récupéré la pierre philosophale ? Qui s'est débarrassé de Gédusor ? Qui vous a sauvé tous les deux des détraqueurs ?»
Toute l'amertume et la rancœur que Harry avait accumulée au cours du mois écoulé se déversaient à présent. Sa déception de n'avoir aucune nouvelle, la peine qu'il avait ressentie à les savoir ensemble loin de lui, sa fureur en apprenant qu'on le suivait à son insu, tous les sentiments dont il avait à moitié honte finissaient par rompre les digues. Edwige prit peur en entendant tout ce bruit et s'envola pour aller se poser à nouveau sur le sommet de l'armoire. Coxigru émit de petits cris de frayeur et volta encore plus vite autour de leur tête.
« Qui est-ce qui a dû faire face à des dragons, des sphinx et toutes sortes d'autres horreurs l'année passée ? Qui est-ce qu'il a vu revenir ? Qui a dû lui échapper ? « Moi !»
Ron restait bouche bée, visiblement paralysé et incapable de répondre quoi que ce soit, tandis qu'Hermione paraissait sur le point de fondre en larmes.
« Mais pourquoi devrais-je être au courant de ce qui se passe ? Pourquoi se donnerait-on la peine de me donner des nouvelles ?»« Harry, nous voulions te tenir au courant, crois-moi !»
commença Hermione.
« Vous n'avez pas dû vouloir beaucoup, sinon vous m'auriez envoyé un hibou. Mais Dumbledore vous a fait jurer. C'est la vérité. Pendant 4 semaines entières, je suis resté coincé à Privet Drive, obligé de fouiller les poubelles à la recherche de journaux où je pourrais trouver des indications sur ce qui se passait. Mais on voulait... J'imagine que vous vous êtes bien amusés ici, tous les deux !»« Non, crois-moi. Nous sommes vraiment désolés, »
assura Hermione au désespoir, les yeux brillants de larmes.
« Tu as parfaitement raison, Harry. À ta place, j'aurais été furieuse. »
Harry lui jeta un regard noir en respirant profondément. Puis il se détourna et se mit à faire les 100 pas. Perché au sommet de l'armoire, Edwige ululait d'un air sombre. Il y eut un long silence que seul venait briser les grincements sinistres du parquet sous les pas de Harry.
« D'ailleurs, on est où ici ? » lança-t-il à Ron et à Hermione.
« Au quartier général de l'Ordre du Phénix, » répondit aussitôt Ron.
Est-ce que quelqu'un va enfin consentir à m'expliquer ce qu'est l'Ordre du Phénix ?
C'est une société secrète, dit précipitamment Hermione. Dumbledore en est le président, il l'a fondée lui-même, elle rassemble tous ceux qui ont lutté contre tu sais qui, la dernière fois.
Qui en fait partie ? Demanda Harry en s'immobilisant les mains dans les poches.
Pas mal de gens.
On en a vu une vingtaine, précisa Ron, mais nous pensons qu'il y en a plus.
Harry les fixa d'un œil sévère.
Et alors ? Demanda-t-il d'un ton impérieux en les regardant tour à tour.
Dit Ron. Alors quoi ?
Voldemort ! S'exclama Harry avec fureur.
Ron et Hermione grimacèrent.
Qu'est-ce qu'il mijote ? Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter ?
Mais on te l'a déjà dit. L'Ordre du Phénix ne nous laisse pas assister à ces réunions, répondit Hermione d'une voix tremblante. Nous ne connaissons donc pas les détails, mais nous avons une idée générale,
s'empressa-t-elle d'ajouter en voyant l'expression de Harry.
Fred et George ont inventé des oreilles à rallonge, dit Ron. Elles nous sont très utiles.
À rallonge ?
Oui, des oreilles. Mais nous avons dû cesser de nous en servir ces temps-ci parce que maman s'en est aperçue et elle est devenue folle de rage. Fred et George les ont cachées pour qu'elles ne puissent pas les jeter à la poubelle, mais elles ont été très efficaces hein, avant qu'elles les découvrent. Nous savons par exemple que des membres de l'ordre suivent des manges morts bien connus et font des rapports sur eux.
D'autres essayent de recruter de nouveaux membres pour l'ordre, dit Hermione.
Et d'autres se targent de garder quelque chose, ajouta Ron. Et ils partent toujours de tour de garde.
Ce ne serait pas moi qu'ils garderaient par hasard ?
Interrogea Harry d'un ton sarcastique.
Ah oui, c'est bien possible,
répondit Ron qui semblait soudain comprendre. Harry eut une exclamation de dédain. Il recommença à faire le tour de la pièce en posant son regard un peu partout, sauf sur Ron et Hermione.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux si on ne veut pas de vous aux réunions ? Demanda-t-il. Vous m'avez dit que vous étiez très occupés.
C'est vrai,
répondit aussitôt Hermione.
Nous avons désinfecté cette maison. Elle était restée inhabitée pendant des années et des tas de trucs se sont répandus un peu partout. Nous avons réussi à nettoyer la cuisine, la plupart des chambres et je pense que nous allons nous occuper du salon de...
Ah ! Accompagnés de deux craquements sonores, Fred et George, les frères jumeaux de Ron, venaient de se matérialiser au milieu de la pièce. Coxigru poussa des cris plus frénétiques que jamais et fila rejoindre Edwige au sommet de l'armoire.
Arrêtez de faire ça, dit Hermione d'une voix faible, à l'adresse des jumeaux qui avaient les mêmes cheveux roux que Ron, mais étaient plus râblés et un peu moins grands.
Salut Harry, dit George avec un grand sourire. Il nous avait semblé entendre ta voix douce et mélodieuse.
Il ne faut pas réprimer ta colère comme ça, Harry. Laisse-la s'exprimer,
dit Fred avec le même sourire. Sinon, il y a peut-être deux ou trois personnes dans un rayon de 50 kilomètres qui risquent de ne pas t'entendre.
« On dirait que vous avez réussi vos examens de transplanage, tous les deux, » remarqua Harry d'un ton grincheux.
« Avec mention, » précisa George, qui tenait à la main une sorte de longue ficelle couleur chair.
« Il vous aurait fallu 30 secondes de plus pour descendre par l'escalier, » fit remarquer Ron.
« Le temps, c'est des galions, petit frère, » dit Fred. « En tout cas, Harry, tu produis des interférences, hein. Oreille à rallonge, » ajouta-t-il en le voyant hausser les sourcils d'un air interrogateur. Il lui montra la ficelle qui s'étendait jusqu'au palier.
On essaye de savoir ce qui se passe en bas, quoi.
Vous devriez faire attention, dit Ron, en regardant l'oreille. Si jamais maman en voit encore une.
Ça vaut la peine de prendre le risque. Ils tiennent une réunion très importante, répondit Fred.
La porte s'ouvrit et une longue crinière rousse apparut.
Oh, salut, Harry, lança Ginny, la jeune sœur de Ron. Je pensais bien avoir entendu ta voix.
Se tournant vers Fred et George, elle ajouta
« C'est fichu pour les oreilles à rallonge. Elle a jeté un sort d'impassibilité sur la porte de la cuisine. »«
Comment tu le sais ?» demanda George tout déconfit.
« Tonk m'a appris comment s'en apercevoir, » expliqua Ginny. « Il suffit de jeter quelque chose contre la porte suspecte. Et si le contact est impossible, ça signifie qu'elle a été impassibilisée. J'ai lancé des bombes à bouse sur la porte de la cuisine depuis le haut de l'escalier et à chaque fois, elles sont reparties dans l'autre sens. » Donc, les oreilles à rallonge ne pourront pas passer dessous.
Fred poussa un profond soupir.
Quel dommage! J'aurais bien aimé savoir ce que le vieux Rogue a fabriqué ces temps derniers.
Rogue? S'exclama Harry. Il est ici?
Ouais, dit George.
Il referma soigneusement la porte et alla s'asseoir sur l'un des lits jumeaux. Fred et Ginny l'imitèrent. Il est en train de faire un rapport top secret.
Sale bonhomme, dit Fred d'un ton nonchalant.
« Il est de notre côté, maintenant, » protesta Hermione.
Ron renifla avec mépris.
« Il n'empêche que c'est quand même un sale bonhomme. Il faut voir comment il nous regarde quand on le croise. »
Bill ne l'aime pas non plus, dit Ginny, comme si cela réglait définitivement la question. Harry ne savait pas encore très bien si sa colère s'était calmée. En tout cas, sa soif d'information l'emportait à présent sur son besoin de vociférer. Il se laissa tomber sur l'autre lit. « Bill est ici ? » demanda-t-il. « Je croyais qu'il travaillait en Égypte. » « Il a fait une demande pour un emploi de bureau. Comme ça, il a pu entrer et travailler pour l'ordre, dit Fred. Il prétend que les tombeaux égyptiens lui manquent, mais il y a des compensations, ajouta-t-il avec un petit rire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Tu te souviens de cette bonne vieille fleur de la cour ?» répondit Georges. « Elle a trouvé un travail chez Gringotts pour spiquer un better anglish. »
« Et Bill lui donne beaucoup de leçons particulières, » ricana Fred. « Charlie aussi est membre de l'ordre, » précisa Georges, « mais il est toujours en Roumanie. Dumbledore veut recruter le plus grand nombre possible de sorciers étrangers, alors Charlie essaye d'établir des contacts pendant ses jours de congé. »«
Et Percy, il ne pourrait pas faire ça ?» demanda Harry.
La dernière fois qu'il avait entendu parler de lui, le troisième des frères Weasley travaillait au département de la coopération magique internationale au ministère de la magie. En entendant sa question, les Weasley et Hermione, l'air sombre, échangèrent des regards éloquents.
Quoi qu'il arrive, ne prononce jamais le nom de Percy devant maman ou papa,
dit Ron à Harry, la voix tendue.
Pourquoi ?
Parce que chaque fois qu'on parle de Percy, papa casse ce qui lui tombe sous la main et maman se met à pleurer, répondit Fred.
C'est une histoire affreuse,
dit tristement Ginny. On en a tous assez de lui, déclara George, avec une expression hostile qui ne lui était pas familière.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Interrogea Harry. Percy et papa se sont disputés, expliqua Fred. Je n'avais jamais vu papa se disputer comme ça avec qui que ce soit. D'habitude, c'est maman qui se charge de crier.
Ça s'est passé à la fin de l'année scolaire, dit Ron. Nous devions venir rejoindre l'ordre. Percy est arrivé à la maison et nous a annoncé qu'il avait une promotion.
Tu plaisantes, dit Harry. Il savait à quel point Percy était ambitieux, mais il lui semblait qu'il n'avait pas très bien réussi dans son premier emploi au ministère de la magie. Percy avait commis une assez considérable bévue en ne s'apercevant pas que son chef était tombé sous le contrôle de Lord Voldemort. D'ailleurs, les gens du ministère ne l'avaient pas cru non plus. Ils pensaient tous que M. Croupton était simplement devenu fou.
« Oui, nous avons tous été surpris, » dit George, car Percy s'était attiré beaucoup d'ennuis dans l'affaire Croupton. Il y a eu une enquête et tout ça. Ils ont dit que Percy aurait dû se rendre compte que Croupton déraillait et en informer les instances supérieures. Mais tu connais Percy. Croupton lui avait confié la direction du département. Il n'allait pas s'en plaindre. Alors comment se fait-il qu'il ait eu une promotion ?
C'est précisément la question que nous nous sommes posée, dit Ron.
Il semblait ravi d'avoir une conversation normale maintenant que Harry avait cessé de hurler.
Il était très content de lui quand il est revenu à la maison. Encore plus content que d'habitude, si c'est possible. Et il a annoncé à papa qu'on lui avait offert un poste dans le bureau même de Fudge. Un excellent job pour quelqu'un sorti de Poudlard depuis seulement un an, assistant du ministre.
Il pensait que papa serait impressionné, mais il ne l'était pas du tout, dit Fred d'un air sinistre.
Et pourquoi ? Demanda Harry.
Apparemment, Fudge avait fait une descente dans tous les bureaux du ministère pour s'assurer que plus personne n'avait de contact avec Dumbledore, répondit George.
Ces temps-ci, le nom de Dumbledore est haï au ministère, dit Fred. Ils sont tous persuadés qu'il cherche à semer la pagaille en prétendant que tu sais qui est de retour.
Papa dit que Fudge a bien fait comprendre que les alliés de Dumbledore, quels qu'ils soient, peuvent tout de suite prendre la porte, expliqua George. L'ennui, c'est que Fudge soupçonne papa. Il sait qu'il est ami avec Dumbledore et il a toujours pensé que papa était quelqu'un d'un peu bizarre à cause de sa passion pour les moldus.
Bah, « Quel est le rapport avec Percy ?» s'étonna Harry, un peu désorienté.
« J'y viens. Papa pense que Fudge veut prendre Percy auprès de lui dans le seul but de s'en servir pour espionner la famille et Dumbledore par la même occasion. »
Harry émit un léger sifflement.
« J'imagine que ça a dû faire plaisir à Percy. »
Ron eut un rire jaune.
« Il est devenu fou de rage. Il a dit tout un tas de choses horribles. » Que depuis son arrivée au ministère, il avait dû se battre contre l'exécrable réputation de papa, que papa n'avait aucune ambition et que c'était pour ça que nous avions toujours été... Enfin, je veux dire, qu'on n'avait jamais eu beaucoup d'argent.
« Quoi ?» s'exclama Harry, incrédule, tandis que Ginny laissait échapper un grondement de chat furieux.
« Je sais !»
dit Ron à voix basse.
Et c'est devenu encore pire. Il a dit que papa était idiot de fréquenter Dumbledore, que Dumbledore allait avoir de graves ennuis et qu'il entraînerait papa dans sa chute et que lui, Percy, savait où était la loyauté, qu'elle était du côté du ministère. Et si maman et papa devaient trahir le ministère, il s'arrangerait pour que tout le monde sache qu'il n'appartenait plus à notre famille. Là-dessus, il a fait ses valises et il est parti le soir même. Maintenant, il vit ici à Londres.
Harry murmura un juron. Parmi tous les frères de Ron, Percy était celui qu'il aimait le moins, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse dire des choses pareilles à M. Weasley.
« Maman était dans un bel état, » dit Ron. « Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle est allée à Londres pour essayer de parler à Percy, mais il lui a claqué la porte au nez. »
« Je me demande ce qu'il fait quand il croise papa dans les couloirs du ministère. Il détourne la tête, j'imagine. »
« Mais Percy sait sûrement que Voldemort est de retour, » dit lentement Harry. « Il n'est pas idiot. » Il se doute bien que ton père et ta mère ne prendraient pas tous ces risques sans avoir de preuves.
« Ouais, et c'est là que ton nom est apparu dans la dispute, »
répondit Ron en jetant à Harry un regard furtif.
« Percy dit que la seule preuve qu'on ait, c'est ta parole. Et, enfin, il ne pensait pas que ce soit suffisant. »«
Percy croit ce qui est écrit dans la Gazette du sorcier, »
dit Hermione d'un ton amer. Les autres acquiescèrent d'un signe de tête. « De quoi parlez-vous ? » demanda Harry en les regardant tour à tour. Ils eurent tous l'air gênés.
« Tu ne recevais pas la Gazette du sorcier ?» demanda Hermione, mal à l'aise.
« Si, bien sûr, » répondit Harry.
« Et tu l'as lue attentivement ?»
poursuivit-elle, de plus en plus anxieuse. « Pas de la première à la dernière ligne, » répondit Harry, sur la défensive. « S'ils avaient eu quelque chose à dire sur Voldemort, la nouvelle aurait fait les grands titres, non ?» Les autres tressaillirent en entendant prononcer le nom.
« Si tu ne la lisais pas en entier, « tu ne pouvais rien remarquer, » reprit précipitamment Hermione.
« En tout cas, ils ont parlé de toi environ deux fois par semaine.
Je m'en serais aperçu. Pas si tu te contentais de lire la première page, »
dit-elle en hochant la tête.
« C'était de simples allusions, pas de grands articles, une sorte de plaisanterie à répétition.
« Qu'est-ce que tu... »«
En fait, ils sont assez méchants, » dit Hermione, qui s'efforçait de parler d'une voix calme. « Ils se servent des histoires de Rita. »
« Mais elle n'écrit plus pour eux. »«
Oh non, elle a tenu sa promesse. »« D'ailleurs, elle n'avait pas le choix, » ajouta Hermione avec satisfaction. « Mais elle a jeté les bases de ce qu'ils font maintenant. »«
Et ils font quoi ?» demanda Harry agacé.
« Tu te souviens, quand elle écrivait que tu passais ton temps à t'évanouir en disant que ta cicatrice te faisait mal et tout ça ?»«
Oh oui, » dit Harry, qui n'était pas prêt d'oublier les articles de Rita Skeeter.
« Eh bien ?» Il te présente comme une sorte d'illuminé qui cherche à tout prix à attirer l'attention sur lui en pensant qu'il est un grand héros tragique ou quelque chose dans ce genre-là,
expliqua Hermione, qui parlait le plus rapidement possible comme s'il était moins désagréable pour Harry d'entendre tout cela très vite.
Il glisse régulièrement des remarques sarcastiques à ton sujet. Par exemple, s'il parle d'une histoire qui paraît invraisemblable, ils ajoutent un commentaire du style « un conte digne de Harry Potter ». Et si quelqu'un est victime d'un accident un peu bizarre, ils disent « espérons qu'il n'aura pas de cicatrice au front, sinon on nous demandera de lui vouer un culte.
« Je n'ai pas du tout envie qu'on me voue un culte !» répliqua Harry avec fougue.
« Je le sais bien !»
dit aussitôt Hermione effrayée.
« Je le sais, Harry, mais tu vois où ils veulent en venir. Ils veulent te faire passer pour quelqu'un qu'il ne faut surtout pas croire. C'est Fudge qui est derrière tout ça, j'en suis sûr. Ils veulent que le sorcier moyen te considère comme un personnage ridicule et stupide qui raconte des contes à dormir debout pour entretenir sa célébrité. »
« Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas voulu. Voldemort a tué mes parents, » balbutia Harry. « Je suis devenu célèbre parce qu'il a assassiné ma famille sans réussir à me tuer. » « Qui aurait envie d'être célèbre pour cette raison-là ? Ils ne comprennent donc pas que j'aurais préféré ne jamais... »«
Nous le savons, Harry, » dit Ginny d'un ton grave. « Et bien entendu, ils n'ont pas dit un mot des détraqueurs qui t'ont attaqué, » poursuivit Hermione. « Quelqu'un leur a recommandé de faire le silence là-dessus. Pourtant... » Il tenait un bon article. Des détraqueurs échappés d'Azkaban. Ils n'ont même pas signalé ton infraction au code international du secret magique. Nous pensions qu'ils sauteraient sur l'occasion, ça cadrait tellement bien avec l'image de Matuvus stupide qu'ils veulent donner de toi. Ils doivent attendre que tu sois renvoyé de Poudlard pour se déchaîner. Je veux dire, si tu es renvoyé, bien sûr, s'empressa-t-elle d'ajouter. En fait, tu ne devrais pas l'être s'ils respectent leurs propres lois. Ils n'ont rien à te reprocher.
La conversation revenait sur sa convocation au ministère de la magie, et Harry ne voulait plus y penser. J'essaya de trouver un autre sujet moins déplaisant, mais des bruits de pas qui montaient l'escalier lui épargnèrent cette peine.
« Oh, attention !»
Fred tira vigoureusement sur l'oreille à rallonge, puis, dans un nouveau craquement assourdissant, il se volatilisa en même temps que George. Quelques secondes plus tard, Mrs. Wesley apparut à la porte de la chambre.
« La réunion est terminée, vous pouvez venir dîner. » « Tout le monde meurt d'envie de te voir, Harry. Et au fait, qui a laissé traîner toutes ces bombes à bouse devant la porte de la cuisine ?»«
Pas tant rond, »
répondit Ginny sans rougir.
« Il adore jouer avec. »«
Ah !»
dit Miss Wesley.
« Je pensais que c'était peut-être créature. Il n'arrête pas de faire des choses bizarres dans ce genre-là. Et n'oubliez pas de parler à voix basse hein, quand vous serez dans le hall. Ginny, tes mains sont d'une saleté repoussante. Où as-tu encore été traîné ? Va vite les laver, s'il te plaît. »
Ginny fit une grimace et suivit sa mère hors de la pièce, laissant Harry seul en compagnie de Ron et d'Hermione, qui le regardaient avec appréhension comme s'il craignait une nouvelle explosion de fureur. En les voyant si inquiets, Harry se sentit un peu honteux. «
Écoutez, » murmura-t-il.
Mais Ron hocha la tête et Hermione dit à voix basse,
« Nous savions que tu serais en colère, Harry. Nous ne t'en voulons pas, mais comprends-nous bien. On a vraiment essayé de convaincre Dumbledore de... »
« Oui, oui, je sais, » répondit sèchement Harry. Il chercha un sujet de conversation qui n'oblige pas à parler de Dumbledore. Dès qu'il pensait à lui, la rage lui brûlait les entrailles.
« Qui est créature ? » demanda-t-il.
« L'elfe de maison, qui vivifie, »
répondit Ron.
« Un vrai dingue. Jamais vu ça. »
Hermione se tourna vers lui en fronçant les sourcils.
« Ce n'est pas un dingue, Ron. »
L'ambition de sa vie, c'est qu'on lui coupe la tête et qu'on la mette sur une plaque comme celle de sa mère,
répliqua Ron d'un ton agacé.
Tu trouves ça normal, Hermione ? Ce n'est pas sa faute s'il est un peu étrange.
Ron regarda Harry d'un œil effaré.
Hermione n'a toujours pas laissé tomber cette histoire de sale.
On ne dit pas sale, s'indigna Hermione. On dit société d'aide à la libération des elfes. Et je ne suis pas la seule à le défendre. Dumbledore lui aussi dit qu'il faut être gentil avec créatures.
C'est ça, dit Ron. « Venez, je meurs de faim. »
Il sortit le premier sur le palier, mais avant qu'il ait commencé à descendre l'escalier,
« Attendez !»
souffla-t-il, en tendant le bras pour les empêcher d'aller plus loin.
« Ils sont toujours dans le hall. On va peut-être entendre quelque chose. »
Tous trois jetèrent un regard prudent par-dessus la rampe. En bas, une foule de sorciers et de sorcières se pressaient dans le hall obscur. Harry reconnut parmi eux les membres de sa garde rapprochée. Les sorciers se parlaient en chuchotant, l'air surexcité. Harry distingua, au beau milieu du groupe, les cheveux sombres et gras et le nez proéminent du professeur Rogue, celui des enseignants de Poudlard qu'il aimait le moins. Il se pencha un peu, curieux d'en savoir plus sur le rôle que tenait Rogue au sein de l'Ordre du Phénix. Une mince ficelle couleur chair descendit alors devant les yeux de Harry. En levant la tête, il vit sur le palier du dessus Fred et George qui déroulaient une oreille à rallonge en direction des sorciers plongés dans la pénombre. Un instant plus tard, cependant, le groupe se dirigea vers la porte d'entrée et disparut.
« Nom d'une carcouille !»
murmura Fred en remontant l'oreille à rallonge. Ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer.
« Rogue ne mange jamais ici, » dit Ron à voix basse. « Dieu merci, viens !»«
Et ne parle surtout pas à haute voix !»
murmura Hermione. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur des têtes d'elfes accrochées au mur, ils virent Lupin, Mrs. Wesley et Tonks refermer la porte sur ceux qui venaient de partir et en verrouiller les nombreuses serrures à l'aide d'un sortilège.
« Nous dînons dans la cuisine, » chuchota Mrs. Wesley, qu'ils avaient rejoint au bas de l'escalier. « Harry, mon chéri, traverse le hall sur la pointe des pieds jusqu'à la porte que tu vois là-bas. »«
Crac, boum !»«
Tonks !» s'écria-t-elle, exaspérée, en tournant la tête. « Je suis désolée, » se lamenta Tonks, à plat ventre par terre. « C'est ce stupide porte-parapluie, ça fait deux fois que je me prends les pieds. »
Mais la fin de sa phrase fut étouffée par un terrible hurlement à glacer le sang. Les rideaux mangés aux mythes devant lesquels Harry était passé un peu plus tôt s'écartèrent brusquement, mais ce n'était pas une porte qu'il masquait. Pendant une fraction de seconde, Harry crut voir une fenêtre derrière laquelle une vieille dame, coiffée d'un chapeau noir, hurlait de toutes ses forces comme si on l'avait torturée. Puis il s'aperçut qu'il s'agissait d'un simple portrait grandeur nature, sans doute le plus réaliste et le plus déplaisant qu'il eût jamais vu.
La vieille femme bavait, ses yeux roulaient dans leurs orbites, sa peau parcheminée se tendait sur son visage tandis qu'elle vociférait. Dans le hall, tous les autres portraits se réveillèrent soudain en se mettant à crier à leur tour dans un tel vacarme que Harry, les yeux plissés, dut se plaquer les mains sur les oreilles.
Lupin et Mrs. Wesley se précipitèrent pour essayer de rabattre les rideaux sur le portrait, mais ils refusaient de se fermer, et la vieille femme hurlait de plus en plus fort en tendant devant elle ses mains griffues comme pour leur lacérer le visage.
« Vermine, saleté, résidu de pourriture et d'abjection, bâtard, mutant, monstre, quittez cette maison, comment osez-vous souiller la demeure de mes aïeux ?»
Tonks se répandit en excuses, soulevant l'énorme et pesante jambe de troll pour la remettre d'aplomb. Mrs. Wesley renonça à fermer les rideaux et courut en tous sens dans le hall pour stupéfixer les autres portraits à coups de baguette magique. Un homme à la longue chevelure noire apparut alors à une porte face à Harry.
« Tais-toi, espèce d'horrible vieille harpie, tais-toi »
rugit-il en saisissant le rideau que Mrs. Wesley venait de lâcher. La vieille femme pâlit.
« Ouh !» hurla-t-elle, les yeux exorbités en voyant approcher l'homme aux cheveux noirs. « Traître ! Abomination ! Honte de ma chair et de mon sang ! Je t'ai dit de te taire !» gronda l'homme.
Dans un effort colossal, il parvint à refermer les rideaux avec l'aide de Lupin. Les cris de la vieille femme s'évanouirent aussitôt, et le silence revint. Légèrement essoufflé, écartant les mèches sombres qui lui tombaient devant les yeux, Sirius Black, le parrain de Harry, se tourna vers son filleul.
« Salut, Harry, » dit-il d'un air lugubre. « Je vois que tu as déjà fait connaissance avec ma mère. »